Bonsoir mes frères et sœurs. C'est vrai que c'est un bienfait de nous retrouver sous le regard de Dieu. Un grand bienfait. Alors nous allons faire plusieurs lectures avant de lire la lecture principale. Le premier dans le proverbe, non le premier dans le psaume 119. Psaume 119, le verset 125. Je vous encourage peut-être à prendre quelques notes car je suis convaincu que le fait de méditer des paroles qui peuvent nous interpeller contribue à nos progrès. Souvent on écoute et ça s'arrête à une écoute intéressante, mais il y a quand même beaucoup plus de résultats lorsque nous avons écrit certaines paroles qui nous ont interpellés et qui vont se graver parce qu'on les aura relues plusieurs fois. Dans le psaume 119 au verset 125, il y a une prière, je ne sais pas si vous la faites, s'il vous arrive de faire cette prière, quelqu'un l'a fait tout à l'heure. Psaume 119, verset 125. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Est-ce qu'il vous arrive de demander à Dieu de l'intelligence? Ça vous arrive? De la sagesse, du discernement, des capacités. On peut demander ces choses et demandons-les. Ce sont des choses qui font partie de la volonté de Dieu. Un peu plus loin, dans le livre des Proverbes, c'est la même pensée, avec une recherche qui est présentée. Là, c'est juste une prière, là, c'est une démarche. Proverbe 2, du verset 1 au verset 6. Proverbe 2, verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si... Tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. Verset 9, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Amen. Est-ce que c'est bien cette affaire? Oui, c'est bien. Le texte qui nous préoccupe ce soir est une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, où Jésus donne tout un enseignement, et surtout un enseignement qui est lié à une requête. Jésus est en train d'enseigner. Il enseigne comme il le fait régulièrement lorsqu'il n'exerce pas son ministère de guérison. Là, il enseigne, Luc chapitre 17, verset 1er. Regardez bien, il y a un contexte par rapport à la démarche des apôtres, parce que nous aussi, nous faisons certaines prières. Luc 17, verset 1er. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Donc, regardez avec moi le contexte, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de donner un enseignement aux apôtres sur les scandales et sur le pardon. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous font réfléchir par rapport au scandale. Il y a beaucoup de choses à comprendre par rapport au pardon. Le scandale, c'est quelque chose de terrible. Lorsque les chrétiens rendent un mauvais témoignage, lorsque les pasteurs ont scandalisé des églises entières, les scandales, c'est terrible. D'ailleurs, vous avez vu ce que Jésus dit, mieux vaudrait pour cet homme qu'on lui attaché une pierre au pied et qu'on l'ait jeté dans la rivière. Pour vous dire à quel point il vaudrait mieux que cet homme meure que de continuer à appauvrir l'église, à affecter l'église. Et c'est vrai que souvent, par exemple, on parle des rétrogrades, on dit oui, s'il a rétrogradé, c'est parce qu'il n'a pas accepté les épreuves, s'il a rétrogradé, c'est parce qu'il était à moitié converti, etc. On met la faute sur la personne. Mais il n'empêche que quand même, des églises entières peuvent avoir éloigné des gens du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'un chrétien rend un mauvais témoignage, lorsqu'une église n'est pas dans la paix, lorsqu'un troupeau est dans le désert, ça ne favorise pas la croissance de l'église. Donc, le Seigneur est en train d'expliquer ces choses sur les scandales. Bon, c'est pas le sujet de la prédication. Le Seigneur est en train d'enseigner sur le pardon. C'est important, le pardon. Si on ne pardonne pas, nos prières ne seront pas exaucées. Ça sert plus à rien de prier. Regardez la réaction des apôtres. Verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est clair que par rapport au problème des scandales, par rapport au problème du pardon, nous avons tous cette réaction. Enfin, j'espère, Seigneur, que notre foi augmente. Vous êtes d'accord? Plusieurs tout à l'heure ont prié par rapport à ceux qui ne sont jamais rentrés dans la confiance, de ceux qui ne sont jamais rentrés dans le repos. Et c'est vrai que dans une église, ça nous brise le cœur quand on voit des chrétiens qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans et même plus de marche avec Dieu et qui ne sont jamais rentrés dans la confiance, qui ne sont jamais rentrés dans le repos. Ils auraient peut-être certainement, ils auraient dû faire avec cœur, avec vérité, cette prière « Augmente-nous la foi ». Ça, c'est une prière, c'est sûr qu'il plaît à Dieu. Jésus ne va pas leur dire « Mais je vais vous augmenter la foi ». Regardez ce que Jésus leur répond. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Continue. Qui de vous, pardon, ayant un serviteur qui laboure ou qui paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sainte-toi, et serre-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Donc je vous situe un petit peu la situation, Jésus enseigne, ses apôtres sont là, des disciples, des pasteurs, etc., sur le, je répète, sur les scandales et sur le pardon. Ça les interpelle et donc ils font cette prière, comme après une prédication, on peut faire une prière, augmente-nous la foi. Et Jésus donne cet enseignement. Alors, vous vous rappelez quand Philippe, l'Éthiopien, Philippe a dit à l'Éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? C'est une question que Dieu pourrait nous poser très souvent, malgré nos années de marche avec Dieu. Je ne crois pas que ça serait même gênant pour nous que Dieu nous interpelle en disant « Mais est-ce que tu as compris ce que tu as lu ? Est-ce que nous comprenons toujours tout ?» Ben non. Et c'est pour cela que je vous ai lu, mais Seigneur, donne-moi de l'intelligence, et si nous recherchons ces choses, comme de l'or, comme de l'argent que nous aimerions trouver, eh bien nous découvrirons cette faveur. Oui, parce qu'il y a des sujets délicats, les scandales, je ne veux pas parler de cela, mais quand même dans nos églises, beaucoup d'églises ne prospèrent pas, beaucoup d'églises n'avancent pas, pour la seule raison qu'il n'y a pas de pardon et qu'il y a des scandales. Donc, nous aussi, nous pouvons dire ce soir, Seigneur, j'en fais une affaire sérieuse, augmente-moi la foi. Vous voulez que votre foi augmente ? Oui, c'est quand même une des raisons pour laquelle nous sommes venus ici, même si de surcroît vous êtes venus aussi pour servir Dieu, ce qui est très bien. Le juste vivra par la foi, vous le savez, il y a été écrit sans la foi, c'est impossible de lui être agréable, etc., etc. Donc, tout devrait contribuer à ce que notre foi augmente. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Silas en prison ? Ils louaient, ils chantaient, ils priaient, ils ont fait une expérience, ils ont vécu ça par la foi, leur foi a augmenté et plus loin dans les Thessaloniciens, on voit que leur foi a grandi. Donc on a des problèmes, on a des tribulations, on a des choses que l'on comprend, que l'on ne comprend pas. Et donc qu'est-ce que Jésus fait ? Écoutez bien, je voudrais que vous soyez simples, mais comme des enfants. Il demande, augmente-nous la foi. Jésus dit pas, ah bon, vous n'avez pas la foi, non. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors premièrement, il parle d'une semence. Vous avez vu ? Est-ce que Jésus aurait pu dire, eh bien écoutez, je vais vous imposer les mains, vous allez tous avoir une foi plus grande. Est-ce que le Seigneur aurait pu le faire ? Oui, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur va leur donner un enseignement. Un enseignement, ça se médite, ça se réfléchit. C'est pour cela qu'il faut dire, Seigneur, que je comprenne la réflexion. Il parle de semence. Au verset 7 et 8, il parle d'obéissance. Regardez bien. Et il parle d'humilité, puisqu'au verset 10, ses serviteurs doivent dire « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Et bien sûr, tout cela baigne dans l'obéissance. Alors mes frères et sœurs, soyons sérieux, joyeux, de comprendre ce soir que l'augmentation de la foi dépendra de ces quatre valeurs, la semence, l'obéissance, l'humilité et l'obéissance, parce que tout doit être fait dans une obéissance joyeuse. La première chose, Jésus parle, il dit quoi ? Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde. Vous avez déjà vu un grain de moutarde ?
Oh, c'est pas plus gros qu'une pellicule de cheveux, à peu près. Quoique je sais qu'il y en a de toutes, mais c'est tout petit un grain de moutarde. Tout petit, tout petit.
Donc, ce n'est pas la quantité qui est importante au niveau de la foi. La grande foi, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Et nous avons tous reçu une mesure de foi. On peut la perdre, on peut l'abandonner, on peut la falsifier, etc. Mais nous avons tous reçu une mesure de foi. Donc Jésus va leur montrer ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent vivre pour avoir une foi qui augmente. Donc, une semence. Mes frères et sœurs, si vous rencontriez Jésus-Christ dans la rue et que vous lui faisiez cette prière « Augmente-moi la foi », le Seigneur vous dirait « Eh bien écoute mon fils, lis la parole, lis-la avec ton cœur et ta foi augmentera ». La semence, vous le savez, c'est la parole du Seigneur. Après le Seigneur compare justement la foi à un homme qui sert Dieu, qui laboure, vous voyez, un homme qui est en train de faire son travail. Il laboure ou il s'occupe des troupeaux. Et après une journée au travail, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la maison et il doit préparer le repas de son maître. Donc, il y a, je le répète, la parole, la foi est liée à la parole. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous est dit? Un serviteur qui obéit à son maître, pas dans une partie, qui obéit en toute chose. C'est pour ça qu'il faut chercher à comprendre. C'est pour cela que j'ai lu le proverbe numéro 2, à savoir qu'il est dit « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel ». Vous connaissez la parabole du semeur. Il écoute la parole et ne la comprend pas. Je résume. Hein. Il écoute la parole et il ne la comprend pas. Vous entendez et vous ne comprenez pas. Il reçoit avec joie, mais dès qu'il y a une tribulation, il y a une occasion de chute. Il y a un problème au niveau de la compréhension. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises uniquement pour la bénédiction. En plus, c'est pas interdit. On peut pas mépriser quelqu'un qui va à l'église pour avoir la bénédiction parce que ça fait partie du plan de Dieu. Mais s'il n'y a que ça, il peut y avoir beaucoup d'aveuglement et beaucoup de surdité spirituelle. Bon, Jésus le dit dans toute la Bible, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs yeux, ça revient souvent. Franchement, ça fait une peine pas possible. Les gens qui entendent, ils entendent, ils sont d'accord. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont capables de dire « Oui, ça c'est biblique, ça c'est pas biblique », mais ils comprennent rien en vérité. Il y a une démarche. Vous savez, quand il dit « Chercher l'Éternel », je suis en train de faire une étude par rapport au fait de chercher Dieu. Quand on peut chercher Dieu avec son intelligence, on en devient des philosophes. Il y a beaucoup de philosophes dans les églises. Il y a des gens qui cherchent Dieu avec leurs sentiments, ils en deviennent mystiques. Puis après, il y a des gens qui cherchent Dieu avec une vraie foi par la parole de Dieu et qui deviennent bien sûr spirituels. Et là, vous avez une perception de ce qu'est la foi qui grandit. Parce que quand même, Dieu veut qu'on ait une foi qui grandisse. Jésus le dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Comprends-tu ce que tu lis? Ce soir, comme disait Jonathan dans sa prière, on n'est pas venu pour avoir une réunion de plus, on est venu pour que Seigneur, tu nous parles et tu nous montres certaines choses. Et on le voit, comprends-tu? L'eunuque éthiopien, c'était un ministre, le ministre des finances d'Éthiopie. Il aurait pu dire, écoute, mais tu sais à qui tu parles? Franchement, il n'y a pas, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que répondrait un ministre aujourd'hui? Essayez, vous téléphonez au ministre des Finances, vous lui offrez une Bible, et vous lui dites, est-ce que tu comprends? Il va vous dire, non mais tu me prends pour qui? Je suis le ministre. Vous savez, la perception, ce n'est pas une question d'instruction, c'est une question d'ouverture du cœur. Et on peut être, non je ne comprends pas, éclairez-moi. Ça, ça plaît à Dieu. Non, je ne comprends pas ce texte, je l'ai lu 10 fois, j'y comprends rien, expliquez-le-moi. Voilà, ça c'est des choses qui plaise à Dieu. Lorsqu'on est humble, et on voit bien, s'il y a une chose que Dieu veut, c'est que nous comprenions. Vous gardez la page, venez avec moi dans Éphésiens au chapitre 3 et au verset 18. J'ai pris ce verset, mais il y en a beaucoup. D'ailleurs, l'apôtre Paul fait partie de ceux qui enseignent beaucoup là-dessus. Éphésiens, chapitre 3, 18. C'est important, mes frères et sœurs. Parce que si vous dites, Seigneur, bénis-moi, je veux que ma foi grandisse, si vous lisez pas la Bible, si vous vivez pas dans l'obéissance et dans l'humilité, votre foi ne grandira pas. C'est pas compliqué. Éphésiens chapitre 3, on va lire que ce qui nous intéresse, verset 18. Voyez, que vous puissiez comprendre. Voyez, c'est ça. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Ça, c'est une affaire, vous voyez, de toute l'Église. C'est personnel, mais on peut le découvrir tous ensemble. Vous voyez, quel est l'amour de Dieu, etc. Éphésiens 5, 17. Éphésiens 5, verset 17. Ne soyez pas inconsidérés. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et c'est ce que l'on fait, comme on l'a chanté, si je me tais, ce soir je me tais, je fais silence, je vais noter ce qui pourrait manquer peut-être. Tiens oui, j'ai compris la parole, mais il y a peut-être au niveau de l'humilité quelque chose que je n'ai pas encore saisi. Afin que vous puissiez comprendre, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il y a beaucoup de textes dans la Bible où on voit que les gens ne peuvent pas revenir à Dieu. Si vous prenez des notes, dans Osée au chapitre 5 et au verset 4, il est dit « Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu ». Vous voyez, il peut y avoir un comportement, une façon de faire, des attitudes qui nous empêchent de revenir à Dieu. C'est archi grave. Osée 5, verset 4. On n'a pas le temps, mais vous le méditerez, ce chapitre, et vous verrez pourquoi certaines personnes ne peuvent pas revenir à Dieu. Elles croient en Dieu, mais elles ne peuvent pas revenir à Dieu. Parce qu'il n'y a pas là cette humilité de cœur d'écouter les reproches que le Seigneur a à nous faire. Il ne suffit pas de désirer, d'être d'accord, d'accepter, d'enseigner, de croire, etc. Non, notre responsabilité, elle est une obéissance joyeuse. De faire ce que Dieu nous demande. Oui à la parole. Béni soit Dieu pour sa parole. C'est elle qui nous permet ce soir d'y voir beaucoup plus clair et d'être rassemblés dans ce lieu. Mais d'obéir. Et une obéissance, je le répète, joyeuse. Une obéissance de cœur. Qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce que Dieu me demande? Vous avez vu là, verset 7? Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, on pourrait dire, mais c'est très 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 loin de la foi ça. Et non, c'est pas très loin. C'est la réponse de Jésus aux apôtres qui demandent « Augmente-nous la foi ». Faire attention, s'il y a de la paresse pour lire la Bible, voyez, de la légèreté pour servir Dieu. Si les plaisirs du monde ne nous éloignent pas, on pourrait parler des soucis, de la tiédeur, etc., etc. Et surtout le manque de soif. Jésus est en train d'enseigner sur l'obéissance, alors que ses apôtres lui demandent d'augmenter la foi. Donc, qu'est-ce que l'on peut en déduire d'une manière mais archi simple? C'est que notre foi grandit au fur et à mesure que nous obéissons. C'est pas compliqué. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible. Moi, l'autre jour, il y a même un monsieur qui m'a demandé de le prendre comme pasteur. Il veut pas aller à l'église. Il veut pas avoir de vie d'église. Et il voudrait que je l'embauche à plein temps pour faire un pasteur. Ça a failli me faire rire. Mais c'est pour vous montrer l'aveuglement dans lequel se trouvent des croyants. Il doit y avoir, pour que notre foi grandisse, cette parole qui est suivie de l'obéissance à la parole. Enseigner sur l'obéissance. Oui, vous connaissez ce que Saül a dû dire, hélas, ce que Samuel a dû dire à Saül, il doit s'en rappeler, il doit y penser souvent à l'enfer, je peux vous le dire. Que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 10, on y revient? On y revient parce que c'est quand même le verset 9 plutôt. Ou non, le 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que le Seigneur vous demande? Parce que ça, c'est un problème qui est récurrent dans toutes les églises. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. C'est pour cela qu'ils doivent s'approcher de Dieu et avoir dans leur cœur cette conviction, Seigneur, je dois faire ça, même si c'est, je l'ai souvent dit, même si c'est qu'une visite par semaine, même si c'est téléphoner à une personne deux fois par semaine qui est loin de l'église, qui est seule, voilà, tu me demandes de prendre soin d'une sœur ou d'un frère, ou tu me demandes de prier un quart d'heure par jour pour les missions, pour les frères et sœurs persécutés, pour les pasteurs de la région. Vous croyez que ça pourrait plaire à Dieu, ça, que quelqu'un tous les jours prie pour tous les pasteurs qu'il connaît, tous les pasteurs de la région? Il y a des gens qui me disent, ben, je sais pas pourquoi prier. Ça revient à dire, je vois pas pourquoi prier. Donc, ça, c'est un aveuglement. Et ça se soigne par l'obéissance. Moi, je l'ai souvent entendu, mais moi, je ne prie pas. Je ne sais même pas quoi demander à Dieu. Mais c'est... Si d'un côté, la personne a l'honnêteté de dire la vérité, elle devrait quand même s'interroger, parce que je crois, moi, que des sujets de prière, il y en a quand même quelques-uns, croyez-moi. Donc, cette attitude, voyez, nous avons fait tout ce qui nous avait été ordonné. Quel bonheur, lorsqu'on en arrive là, de dire, eh bien, Seigneur, tu me demandes de m'occuper de Madame Dupont. Voilà, ben, c'est pas à Monsieur Gouin le faire. C'est à moi de le faire. Je dois m'occuper de cette sœur. Elle habite à 10 kilomètres de chez moi. Ah, là, il faut qu'elle aille à la clinique. Elle peut pas avoir de véhicule pour y aller. C'est ce que tu me demandes. C'est important que chacun d'entre nous, nous sachions, je le répète, ce qui nous a été ordonné. Vous savez, il y a un verset que j'aime beaucoup dans Ésaïe 64, c'est quand Ésaïe dit « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice ». C'est un verset, moi, qui m'a toujours fait du bien. « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice ». La parole, une obéissance complète, une obéissance joyeuse et une humilité vraie. On ne se prend pas la tête avec ce qu'on a fait. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. L'humilité, Jésus termine l'enseignement. Regardez, vous rappelez ce que je vous dis, qu'est-ce que tu comprends ce que tu lis? Par rapport à cette requête des apôtres, Jésus ne les renvoie pas à vide, il leur donne la réponse. Cette humilité, l'humilité, c'est quand même quelque chose, parce qu'on pourrait dire, tiens, nous sommes des serviteurs inutiles. Ailleurs, Jésus dit, mais t'as été fidèle un peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Oui, c'est des choses qui nous dépassent, ça. Je sais pas comment ça se passera pendant le millénium, la façon dont nous administrerons les villes du monde entier. Mais une chose est certaine, nous ne devons pas nous inquiéter de ça. Nous devons nous préoccuper de dire, est-ce que je suis dans l'humilité? Parce que Dieu fait grâce aux humbles. La foi, l'augmentation de la foi est liée à la parole, à l'obéissance et à l'humilité. Je veux faire ce que tu me demandes. Combien de chrétiens sont dans l'illusion? Combien de chrétiens se trompent par de faux raisonnements? Moi, j'ai vu ça. Oh, ben, quand je serai à la retraite, je servirai le Seigneur. Quand j'aurai fini mes études, je me marierai et puis je servirai Dieu. Voilà. Quand je serai marié, pour le moment ça ne va pas, ça me perturbe, mais quand je serai marié, je servirai le Seigneur. Ou quand je ne serai plus marié. Ça, je l'ai entendu, c'est ce qui est pire encore. Quand j'aurai plus de problèmes, écoutez-moi, monsieur, vous. Quand j'aurai plus de problèmes, parce que j'en ai assez, je servirai le Seigneur. Vous risquez d'attendre longtemps là aussi. Quand mon conjoint se convertira. J'ai écrit des choses que j'ai entendues. Quand mon conjoint se convertira, monsieur, je peux vous dire que je serai un chrétien solide. Quand mes enfants seront tous chrétiens, laissez-moi vous dire que je serai solide. Quand je serai, bien sûr, dans un travail, quand mes affaires marcheront, etc., quand j'aurai beaucoup d'argent, croyez-moi, je serai un chrétien costaud. Bon, la liste, elle est interminable. Mais je ne crois pas que c'est ça que Jésus est en train d'enseigner dans ce texte. Jésus est en train d'enseigner une obéissance joyeuse, une parole merveilleuse. Elle n'est pas merveilleuse, la parole de Dieu? Une grâce de vivre dans l'obéissance complète, parce que la parabole enseigne bien que même si j'ai travaillé au champ toute la journée, quand je rentre à la maison, je dois aussi vivre dans l'obéissance. D'accord? Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Si on devait le résumer, si je vous disais, tiens, ben pour dimanche, les pasteurs, vous me faites un résumé de ce que Jésus aurait pu dire. Eh bien, c'est comme si Jésus avait dit, en obéissant jusqu'à la fin, en choisissant l'humilité et en lisant la parole, avec votre cœur, votre foi augmentera. Vous m'avez compris, frères? C'est exactement. Ce n'est pas une question, il y a des gens qui viennent à l'imposition des mains pour que leur foi augmente. Il y a des séminaires entiers sur la foi. Moi, j'ai vu des séminaires pour ta foi, augmente notre foi. Et moi, j'assiste des fois à ces trucs, je regarde sur Internet, j'y commence à comprendre un peu comment ça marche. Et je regarde des trucs sur augmente-moi la foi, je suis... Et des chrétiens et des pasteurs se font noyauter, se font aveugler complètement. Et ils sont là, ils voient l'imposition des mains, il y a des séminaires au Canada, il y a des séminaires en Afrique, avec des pasteurs qui crient comme ils ne peuvent plus, comme ils ne peuvent pas crier plus. Mais ce n'est pas comme ça que la foi augmente. La foi, elle augmente lorsqu'il y a un esprit d'obéissance. Vous vous rappelez cet officier romain, qui faisait même pas partie du peuple de Dieu. C'était même pas un chrétien, en tous les cas pas encore. Et cet homme, il va même pas vers Jésus. Pourtant, il avait construit une synagogue. Je veux dire, il aurait pu dire, bon, hein, mais ce que j'ai fait, je mérite. Et ce sont les pharisiens, pour vous dire, le peuple de Dieu, pour vous dire, voyez, la mentalité. Les pharisiens vont dire à Jésus de cet homme, il mérite que tu lui accordes cela. Voyez comment ils sont tordus. Cet homme qui n'a pas encore peut-être... qui n'est pas encore rentré dans le peuple de Dieu, est dans un super bon état d'esprit. Et il dit, mais je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis officier, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et à l'autre va, et en même temps il explique qu'il est soumis à ses supérieurs. Cet homme a compris ce qu'était l'obéissance et que lui, un centenier, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige 100 personnes, c'est un capitaine, il dirige 100 soldats, il dit, mais moi, j'ai le pouvoir de faire avancer 100 soldats sous mes ordres. Toi, si tu es le fils de Dieu, tu as pouvoir sur tout. Et il dit, dis un mot. Et Jésus dit, un mot, va. Et cet homme a compris ce qu'était l'obéissance. L'obéissance, c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense. L'autorité dépend de l'obéissance. Je vous encourage à lire ce livre, je l'ai conseillé à tous les responsables, l'autorité spirituelle. Moi, c'est un livre qui m'a fait faire des progrès énormes quand j'étais jeune stagiaire. J'ai compris vraiment qu'il ne pouvait pas y avoir d'autorité, de bénédiction sans obéissance. Il y a des chrétiens, ils sont rebelles, ils sont tout le... Et le diable, il pousse à fond. Ils sont tout le temps en train de se plaindre, de râler. Et pourquoi maintenant il faut rouler à 80, n'importe quoi. Ils marchent, ils sont là-dedans, moi je ne roulerai pas à 80. Et j'en passe. Toutes ces lois, mes frères et sœurs, ne les discutez pas. Soyons obéissants. Une obéissance, Seigneur, je ferai ce que tu me demandes. Il faut rouler à 80. Eh bien, roule à 80. C'est pas le bout du monde. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des gens comme ça. Ils se mettent en vrac. Et ils sont là, ils deviennent rebelles. Et ils s'opposent aux lois. Est-ce qu'il nous est demandé d'obéir à ceux qui nous dirigent? Et les gens, ils n'ont aucune perception de l'humilité, de l'obéissance jusqu'au bout. Parce que je le relis quand même, pour ceux qui ont du mal à obéir. Parce qu'il se pourrait qu'il y en ait un, on ne sait pas, quelqu'un de passage, je suppose, dans l'église, il n'y en a pas. Mais de passage, Luc 17, vous voyez, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sème-toi et serre-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé, après tu feras. Ça veut dire, je fais tout ce que le Seigneur me demande. Si le Seigneur me demandait de paître les troupeaux, ben je paie les troupeaux. S'il me faut traire les agneaux, les brebis, ben je traie les brebis. Je fais ce que Dieu me demande. Je le fais. J'obéis pas juste le dimanche matin, pendant le culte, il faut louer, alors je loue, il faut donner ma dîme, alors je donne ma dîme. Non. J'obéis, là, la réunion va se terminer, on va rentrer à la maison. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je reste dans cet esprit d'obéissance. Est-ce que vous croyez que Jésus était soumis à son Père? Pourquoi Jésus a-t-il eu tant d'autorité?
Et vous rendez compte, moi j'ai été bouleversé quand j'ai lu vraiment la vie de Jésus. Vous rendez compte, il est le Fils de Dieu, Dieu incarné. Et il fait rien, rien de lui-même. Je ne fais que ce que je vois faire à mon Père. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand il fait quelque chose de glorieux, il ne met même pas le résultat sur son ministère. Il dit, ta foi t'a sauvé. Moi, je suis doux et humble de cœur. Venez à moi que je suis doux et humble de cœur. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, à sa place? Vous auriez dit, écoutez, venez à moi, car je vous le dis au cas où vous n'auriez pas bien compris, je suis le Dieu Tout-Puissant incarné, le Créateur du ciel et de la terre. Vous n'avez pas compris encore? Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Venez à moi, car je suis doux. Est-ce qu'il aurait pu le dire, je suis le Créateur du ciel? Est-ce qu'il aurait pu le dire avec bien sûr une tonalité pleine de tendresse? Est-ce qu'il aurait pu le dire? Oui, bien sûr. Il était dans un état de soumission et d'obéissance. Et c'est vrai qu'il a appris l'obéissance aussi par les choses qu'il a souffertes. Mais mes frères et sœurs, nous voulons que notre foi augmente? Est-ce que vous voulez que votre foi augmente? Et obéissons. Le diable, c'est le principe de la rébellion. Vous savez quel est le premier commandement dans la Bible satanique? Vous savez quel c'est le premier commandement? Fais ce qu'il te plaît. Voilà le premier commandement dans la Bible de Satan. Fais ce qu'il te plaît. J'ai peur que ce commandement, beaucoup de chrétiens le suivent. C'est pas fais ce qu'il te plaît, c'est fais ce qui plaît à Dieu. Alors on obéira joyeusement. Seigneur, tu me demandes, demandez, je vous en supplie mes frères et sœurs, faites que ce que Dieu vous demande. Moi je connais un frère qui a cherché Dieu, il vient de prendre la retraite, Dieu lui a demandé de prêcher 2 fois par mois, et je le savais en plus, je ne le lui ai pas dit, il a vraiment découvert, Dieu lui a demandé de prêcher 2 fois par mois. C'est bien ou c'est pas bien? Ben c'est très bien, il peut faire, c'est ce qu'il peut faire, il peut prêcher 2 fois par mois. Il n'a pas les capacités peut-être pour prêcher davantage, est-ce que c'est grave? Ben non, il a reçu ce talent-là. Il y en a qui en ont reçu 3, il y en a qui en ont reçu 5. C'est pas grave. Dieu ne lui demandera pas pourquoi tu n'as pas prêché 3 fois. Non, tu dois prêcher 2 fois par mois. Et on lui demande de prêcher 2 fois par mois. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Et si on cherche Dieu, le Seigneur ne pourra pas faire autrement que de nous montrer ce qu'il faut faire. Gloire à Dieu. Alors je ne sais pas si vous avez des troupeaux, si vous occupez des brebis, j'en sais rien. Mais dites-le. Peut-être vous allez voir. Vous aurez à cœur certaines choses. Faites-le. Peut-être quelqu'un va me demander, tiens, moi je veux la liste de tous les pasteurs de Midi-Pyrénées, je veux prier pour tous les pasteurs de Midi-Pyrénées, peut-être même je veux prier pour tous les pasteurs de ce pays. Est-ce que c'est un exploit? Eh bien, un jour on prie pour les pasteurs du Tarn et de l'Aveyron, le lendemain on prie pour les pasteurs du Gers et de la Haute-Garonne, vous voyez ce que je veux dire? Et on le fait, eh bien, voilà, je fais ce que Dieu me demande, et ma foi, elle grandira. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hein? C'est ce que Dieu demande. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Comprends-tu ce que tu lis? Qu'on puisse dire oui, ce soir j'ai compris. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole. Et je sais, nous le savons tous, que si nous gardons ta parole, si elle descend, elle produira du fruit. Et nous le savons, Seigneur, que si nous obéissons en toutes choses, et si nous faisons ça avec humilité, toujours baignés dans l'obéissance, nous le savons, merci, notre foi grandira. Merci, Seigneur Jésus, de nous accorder d'obéir tout le temps, tout le temps, tout le temps, Seigneur. Nous l'avons chanté tout à l'heure, que si nous nous taisons, nous apprendrons, nous écouterons ta voix. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Augmente-nous cette foi sur cette base. Et je sais, et nous savons tous que tu le feras. Garde-nous, Seigneur. Quand tu viendras, trouve-nous avec cette foi vivante. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.